Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on décortique et on donne notre opinion sur l'actualité de la semaine. Et cette semaine, comme à chaque semaine, une panéliste de renom, quelqu'un d'extraordinaire qui a un rire inimitable. J'ai nommé Madame Joanie Riendo.
Bonjour, Joanie. Bonjour, Pierre. Je suis contente de te voir.
Ouais, moi aussi, ça va bien?
Ça va très bien. On a des bonnes nouvelles, on a des moins bonnes nouvelles cette semaine, mais ça reste que je suis toujours contente de te revoir en studio.
Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui.
Oui, ben c'est partagé. On va le décoller ça avec des bonnes nouvelles, là.
Oui.
Bon, hey, nouvelle poissonnerie à Dolbeau-Missassini.
Aïe! Ah, yeah!
Poissonnerie gaspésienne par un propriétaire d'origine qui vient de la Gaspésie,
oui,
je crois.
Oui, dans le fond, c'est un homme gaspésien avec sa conjointe qui vient de Dolbeau-Missassini,
okay,
qui ont décidé d'ouvrir une poissonnerie à l'établissement de l'ancienne pizzeria...
Jukebox.
Merci. Mm-hmm. L'ancien Jukebox. Je suis tellement contente. J'ai habité en Gaspésie et je m'ennuie des vraies poissonneries. Oui, dans nos épiceries, on est capable de trouver des très bons arrivages. Mais il y a la particularité qu'un poissonnier d'expérience avec des produits frais qui peuvent nous dire quand ils sont arrivés, parce que dans les épiceries, ils ne peuvent pas nous le dire, bien, ça peut faire toute une différence. Je peux vous dire que je vais me lancer des sushis avec une poissonnerie.
Puis aussi la diversité de poissons, parce que veux pas dans l'épicerie, comme ils vendent en plus grand volume, peut-être qu'ils ont moins de choix, puis ils ont des bons choix, comme tu dis, mais là, on va peut-être pouvoir avoir accès à d'autres produits, des produits plus nichés. Je sais pas, moi, je suis un fan d'anguilles, puis je trouve donc bien ça difficile à en trouver. T'sais.
Dans les grandes épiceries aussi, il faut se dire que tout doit passer par le bureau chef.
Mm-hmm.
Donc, il y a des choses, parfois, je ne sais pas pour les poissons, mais il y en a beaucoup qui doivent passer à Montréal avant de s'en venir dans la région. Alors qu'une poissonnerie, ça va être direct.
Ouais.
Eux-mêmes vont avoir un lien avec leur fournisseur. Il n'y aura pas de transfert dans les grands centres. Donc, ça va être rapide, efficace. Moi, bravo. J'ai juste hâte. Je suis une grande amatrice de poissons et de fruits de mer. J'ai hâte de pouvoir aller faire mon tour.
Ouais, moi aussi, je trouve que c'est une excellente idée. Ça me manque. Je sais pas si dans l'histoire de la municipalité de Dolbeau-Missassini, il y a déjà eu une poissonnerie.
Je ne sais pas, mais moi, il y a une chose que j'espère. J'espère qu'ils vont importer de la Gaspésie, c'est les recettes, la morue salée, qui vont avoir déjà des saumures ou des mélanges, des recettes qui vont déjà être faites qu'on va pouvoir acheter.
Ouais.
Ah, la morue salée, c'est très bon. Ouais. Si vous n'y avez jamais goûté, ça va être l'occasion.
Oui, puis en tout cas, il y a plein de poissons qu'on peut faire fumer. Moi, je sais que l'anguille fumée, c'est extraordinaire. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités.
J'espère qu'il va y avoir plein de produits de la Gaspésie.
Oui, mais j'espère qu'il va y avoir plein de produits, une diversité, les bigorneaux, un peu de tout. Là. C'est le fun, c'est bon pour la santé en plus. Motoneige?
Oui.
Ouais, tu voulais parler de motoneige, toi?
Bien, la semaine de relâche, étant donné qu'on est quand même en zone orange, il y a eu une grande inquiétude en se demandant est-ce qu'on va avoir assez de monde pour faire vivre notre industrie touristique ou est-ce qu'on va avoir trop de monde qui arrive de la zone rouge puis qui se retrouve à ne pas avoir de service?
Ça devient un peu dangereux.
Ça devient dangereux. Eh bien, il semblerait que les résultats soient très intéressants. Les personnes en zone rouge respectent les conditions... côtoient nos relais de motoneige, côtoient nos services, puis participent beaucoup à nos sentiers de motoneige. Donc, c'est super intéressant de voir que la passerelle du 49e, notre réseau...
Une de nos sept merveilles du monde.
Bien, quand même un projet qui date d'il n'y a pas si longtemps.
Trois
ça
ans.
Fait moins de 3 ans. Mmh. Et dans leur plan, c'était cette année qu'ils devaient le lancer au grand public. Puis on voit que ça fonctionne, puis on n'est même pas dans le grand lancement. Bien, félicitations à tous les décideurs qui ont parti sur ce projet-là, parce que même en année de pandémie, parce que c'est la première fois que la motoneige va être en pandémie, l'année passée, la semaine de relâche, c'était avant le confinement, bien, ça fonctionne. Les gens viennent, respectent les conditions, ça fait rouler notre économie locale. C'est une super de bonne nouvelle.
Oui, je pense que certaines modifications avec la pandémie vont devenir bénéfiques, je pense, à long terme. Puis il y a beaucoup de gens qui vont découvrir le territoire et notre territoire. Tu sais, il y a plein de gens qui disent « Ah, faut que j'aille ». Combien de fois on entend « J'aimerais ça aller en région, voir le lac Saint-Jean, la Gaspésie, on en parle, bon, Charlevoix ». Mais c'est d'y aller, c'est de le faire à la place. Ils vont à Ogunquit, là. Bon, mais non, mais profitons-en de notre beau territoire. Il y a plein de choses à faire. Puis en plus, ici, on le met vraiment bien en valeur.
Oui. Puis aussi, on parle vraiment des gens de l'extérieur qui viennent profiter des sentiers. Mais aussi, les gens dans la région qui ne souhaitent pas quitter la région font du staycation. Ils profitent, tu sais, ils profitent de nos atouts qu'on a déjà ici. Parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah, je vais y aller demain, je vais y aller demain, je vais y aller demain. » Là, on a l'occasion, puis on a le bon prétexte pour profiter de ce qu'on a ici. Donc, c'est super intéressant.
Vraiment, vraiment. Je veux t'entendre sur la politique d'accueil des nouveaux arrivants de la municipalité de Normandin, parce que je sais que c'est un dossier qui te touche énormément. Je veux t'entendre là-dessus, ton analyse. Est-ce qu'ils ont bien fait les choses?
Moi, je suis contente que vous en ayez traité avec M. Richard Hébert, étant donné son passé politique. C'est très important d'en parler, parce que je sais que Normandin n'est pas la seule ville, mais c'est la première à l'avoir annoncé. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Puis dans leur processus, c'est un processus où la ville s'engage à faire des améliorations qui vont être bénéfiques à tout le monde, mais qui vont être attrayants pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est pas une politique.
Mais as-tu un exemple? T'sais, comme ça, c'est beau à dire, mais j'essaie de me mettre des images.
Bien, il y a plusieurs éléments. On travaille sur plusieurs axes. Mais un axe qui est très marquant présentement, dans lequel on vit, on est dans la recherche de logement. Eh bien, présentement, dans une ville comme Normandin, même Dolbeau-Mistassini, il y a une pénurie de logements locatifs. Il y a beaucoup de maisons à vendre, mais il y a très peu de résidences à louer. Donc, la ville va travailler à inverser la tendance, à avoir plus de logements disponibles, parce que les nouveaux arrivants ne vont pas acheter en arrivant. Ils veulent connaître le milieu, ils veulent magasiner, ils veulent voir. Donc, inverser la tendance entre le manque de logements locatifs puis le trop grand nombre de maisons à vendre.
Est-ce que ça pourrait être une avenue intéressante? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de demeures qui... Bien, pas en ce moment, là, le marché de la vente de maisons va quand même bien, mais des fois, on construit des nouvelles maisons, mais il reste des bâtiments, là, puis pour le patrimoine architectural, ça serait intéressant de prendre ces maisons-là, de les transformer en logements locatifs?
Bien, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans leur plan d'action, dépendamment de quelle ville, pour Normandin, je ne le connais pas par cœur, parce que les plans actions sont parfois de 20-30 pages avec chacun 5 actions. Donc, c'est très complet avec un plan d'action sur 3-5 ans de choses que la municipalité peut s'impliquer, soit en irresponsable ou collaborateur, trouver des partenaires. Donc, c'est un plan d'action pour se dire, dans 5 ans, on va être mieux outillé pour accueillir nos nouveaux arrivants. C'est ça l'objectif d'un plan d'action. Donc, il y a tellement de solutions possibles, il y a tellement d'avenues possibles que... le comité, parce qu'un plan d'action vient souvent avec un comité, bien, le comité va pouvoir voir dans l'avenir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est récupérer des vieux bâtiments patrimoniaux? Parce qu'un vieux bâtiment patrimonial vient avec des dépenses financières puis des obligations. Donc, pour garder l'architecture, il faut que tu fasses affaire avec tel type d'artisan et autres. Ou encore, est-ce que... je sais que c'est un projet de certains organismes communautaires de donner des conférences sur la location avec option d'achat pour la maison. Donc, pour inverser la tendance, les propriétaires pourraient offrir la location de leur maison qui est depuis longtemps sur le marché de la vente. Puis le locataire, s'il aime, s'il est prêt à acheter, bien, sa location vient l'équivalent d'une mise de fonds.
Bien oui, c'est une bonne idée.
Donc, puis il y a des bons comme des mauvais côtés, mais je sais que les organismes commencent à parler de ça parce que c'est souvent une alternative qui est très peu connue dans notre milieu puis qui peuvent être très intéressantes pour être gagnantes pour tout le monde. C'est ça qui est le fun là-dedans. Au lieu de construire un nouveau bâtiment puis d'avoir des bâtiments qui sont soit abandonnés, soit inhabités, qui peuvent être une tâche financière aussi pour les gens qui n'habitent plus dans cette maison-là parce que tu payes les taxes, tu payes tout, tu as des assurances, tu as tout ce qui vient avec. Comment accommoder tous les partis dans ce cas-là. Il y a aussi, par exemple, dans la programmation des loisirs. Dans la programmation des loisirs, par exemple, donner des cours de langue. Ça peut être une très bonne façon. Ou encore sensibiliser les commerçants locaux à offrir des produits plus internationaux.
Bien, des produits. Puis des fois, peut-être que les commerçants peuvent s'informer ou qu'il y a un partage d'informations. Hein, si tu achètes tel produit que tu n'achetais pas avant, nous, on va l'acheter. Là. On va l'acheter dans ton magasin si tu
veux
en vendre.
Donc, c'est le genre de... Des actions, ça n'a pas besoin d'être des actions à des milliards ou des millions. Ça peut être des petites actions, mais qui vont faire un effet wow, un effet très fort dans la communauté. Puis tu sais, un cours de langue, là, c'est pas engageant. C'est un avantage pour la personne qui le prend. Puis c'est une, tu sais, les cours de langue, c'est aussi, il y a des apprentissages sur la culture. Il y a ça, il y a plein de choses qui peuvent être faites qui sont super intéressantes. Qui, par exemple, aussi, il y a un projet de parrainage où les familles qui vont être volontaires vont pouvoir être liées parrainer une famille de nouveaux arrivants. Peu importe leur origine, qu'ils soient québécois, qu'ils soient canadiens, qu'ils viennent de l'international, va pouvoir se dire, ben oui, moi, ça me tente qu'on se dise une fois par mois, on fait une activité ensemble pour faire connaître le milieu. Donc, il y a beaucoup. C'est super intéressant de voir qu'on prend en considération cet aspect-là, qui est l'aspect humain. Mais le plan d'action aussi apporte autre chose. Apporte l'aspect politique et l'aspect social. Plus on a de résidents, plus on a de payeurs de taxes. Mm-hmm. Plus on a de payeurs de taxes, plus on a des services à même la municipalité. Donc, c'est une roue qui tourne. Plus on est en contact avec des personnes de d'autres nationalités, moins on en a peur, plus on est en confiance, plus on comprend les différences culturelles. Donc,
ça fait diminuer le racisme.
Ça augmente l'intérêt, la curiosité des différentes cultures. Donc, c'est une roue qui tourne et c'est le fun de voir qu'une municipalité, une instance politique, prenne en charge, selon son domaine d'expertise, afin d'inverser une roue. C'est avantageux pour la ville autant que pour ses citoyens. Plus on a de payeurs de taxes, plus on a... c'est pas juste des payeurs de taxes, mais plus on a des citoyens. Plus on a des citoyens qui vont participer aux activités, donc plus les activités vont être remplies, vont avoir lieu. Plus on va avoir des gens qui vont payer des impôts, plus on va avoir des personnes qui vont aller dans l'épicerie, dans l'épicerie du coin, dans la boutique du coin. Donc, c'est voir comment des villes qui prennent ce type de politique, qui prennent des actions concrètes, tu n'as pas besoin d'être des millions, mais qui font des actions concrètes pour que ça soit intéressant pour un nouvel arrivant, c'est très gagnant. Puis une autre action, quand je vous dis que ça coûte pas cher, c'est faire une pochette d'accueil. Les poubelles sont à telle date. Les poubelles sont à telle date.
Les choses techniques, là, que oui. Des fois, on ne sait pas où qui appeler, quoi faire, comment
c'est
ça fonctionne.
C'est ça. Les numéros de téléphone de la ville, les numéros de téléphone des épiceries qui livrent, étant donné qu'il est recommandé de faire 14 jours de quarantaine quand tu arrives. La programmation des loisirs qui est en cours, c'est pas plus compliqué que ça, des fois aussi. Là,
c'est toutes des affaires que la ville a déjà, en fait. Là, ils ont juste à mettre ça ensemble.
À rassembler. Puis, tu sais, on demande pas de faire un gros party pour les nouveaux arrivants. Il y en a qui vont le faire, il y en a. Mais
on n'a pas le droit de faire des gros parties, Joanie.
Un party virtuel. J'ai pas dit en présentiel. Mais vous comprenez que le plan d'action, même s'il y a beaucoup d'actions, c'est pas toutes des actions qui coûtent de l'argent ou qui prennent beaucoup de temps. Mais c'est des choses qui vont faire la différence sur le sentiment d'intégration puis sur l'attraction des nouveaux arrivants.
Super, super. Merci, merci. Parler de Nancy Guillemette, notre députée, qui a pris des engagements clairs au niveau des garderies et d'Internet haute vitesse. C'est pas une critique, là, mais mm-hmm. Prendre des engagements sur les garderies et Internet haute vitesse, on l'a entendu une fois puis une autre. Est-ce que ça va se réaliser? Ça, c'est la question. Mais c'est correct que notre députée se mouille, là. Elle, c'est son premier mandat. C'est parfait qu'elle se mouille, mais ces engagements-là, écoute, on nous a promis ça pendant à peu près 4 gouvernements libéraux.
Oui. Puis en plus, c'était à l'époque où on avait le premier ministre sur le territoire. On ne les a pas plus su.
Ouais.
Donc ça, c'est assez important. Il faut le prendre en considération. Cependant, c'est bien beau avoir des engagements. C'est bien beau en avoir plusieurs. Mais, dans les deux cas, est-ce qu'on a assez de techniciens en garderie? Est-ce qu'on a assez de professionnels ici, sur place, pour répondre aux besoins?
Il faudrait commencer par régler les conditions de travail des gens en garderie.
Hein? C'est un problème qui est beaucoup plus complexe en a l'air. C'est pas dire « Ah, on ouvre 100 places de garderie! » Non. Est-ce que tu as les professionnels? Est-ce que tu as le réseau? Est-ce que tu as les moyens?
Parce qu'on l'a vu, là, on l'a vu, ils avaient promis des places, ils n'ont pas été capables de les livrer. Et souvent, c'est parce qu'il n'y avait pas de projet qui venait de la communauté pour des CPE. Là.
Puis même quand il y a des projets qui arrivent, est-ce que les ressources sont là? Mmh. Par exemple, il y a eu un projet il y a quelques années, quand je commençais l'émission, d'une garderie 24 heures sur 24, qu'on appelle horaire irrégulier. Donc pour les médecins, les ambulanciers, c'est génial. Mais où est le staff?
C'est ça.
Où sont les ressources humaines? Déjà, ils ont une pénurie dans les CPE, dans les services de garde classiques. Qui va venir travailler une nuit?
Non, c'est ça. C'est plus compliqué que ça en a l'air.
C'est quand même des sujets qui sont ultra importants. Parce qu'on s'en est aperçu avec la pandémie, c'est La qualité de l'Internet est nécessaire au développement économique, puis à la bonne santé mentale de certaines personnes. Être capable de jouer, être capable de contacter les gens autour de nous, être capable de faire des transactions. L'Internet est rendu un service essentiel dans nos comportements. C'est encore du privé, mais ça reste dans nos comportements, dans notre fonctionnement social, un service essentiel. Donc, comme l'électricité, on devrait tous être capable d'avoir le minimum qu'on a de besoin. Et présentement, on est discriminé par le choix de la région où on a habité, par la ville où on a décidé d'habiter. C'est pas la même chose que l'électricité, je comprends, mais ça reste quand même une réalité avec laquelle on fait face. Si on veut habiter nos régions, ben il faut qu'on ait les outils pour habiter nos régions. Puis pour habiter nos régions, l'Internet est rendu un incontournable.
C'est le problème, en fait, de la faible densité de population, des grands espaces, et puis qu'il reste que les fournisseurs d'Internet, c'est du privé, donc ça le prend des incitatifs gouvernementaux. Puis j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup d'argent, les gouvernements, depuis plusieurs années pour que ça arrive, mais que ça n'arrive pas. Je sais pas, il est où le problème, là?
Bien, ce que j'ai vu, moi, à travers le Québec, je vais parler de ma ville natale. Il y a un programmeur de jeux vidéo autonome qui, lui, a fait un jeu vidéo à la TUC, puis ça a fait des millions, OK? C'est un gars qui était dans son garage, puis a fait un jeu, ça a fait des millions. Il a installé des serveurs, puis il n'y avait pas assez de réseau Internet de la ville au complet pour fournir son serveur, pour finir ses affaires. Bien, lui, il a accepté de payer l'installation d'une fibre optique complète pour se rendre jusqu'à la TUC. Puis il a dit, en installer une ou en installer deux, payez le fil, moi je paye l'installation.
OK.
Parce que c'est un privé qui a dit, tant qu'à payer l'installation, tu sais, installer un fil ou deux fils, c'est pas deux équipes.
Ouais, ouais.
Donc, tu sais, le privé va pouvoir s'impliquer. Parce que, par exemple, dans les commissions scolaires, la fibre est déjà là. Pourquoi ça n'a pas été installé dans les régions en même temps? Tu sais, il y a ça qui est à se poser, parce que faut pas oublier que les centres de services scolaires, c'est gouvernemental aussi. Donc, il faut prendre en considération, c'est pas des entreprises privées, c'est des organisations gouvernementales. Donc, c'est quand même des questions à se poser. Les installations sont pas optimales, sont optimales pour des organismes, pour des organisations gouvernementales. Mais ça veut dire que c'est possible de les installer. Ça veut dire qu'il y a des structures qui ont été possibles, ça s'est fait. Pourquoi c'est plus compliqué de le faire à l'échelle de la population générale? C'est une question qu'il faut quand même se poser.
Oui, une belle analyse.
Puis, c'est surtout parce que c'est privé. Le privé, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus on va l'offrir, plus ils vont monter leur prix parce que la demande... plus on va le demander, ils n'ont pas plus d'offres. Il faut qu'ils augmentent. Donc, ils vont augmenter leur prix pour être rentable afin de l'installer. Puis moins il y a de monde moins il va y avoir de fournisseurs sur le territoire, plus ça va être cher par fournisseur, parce qu'il n'y aura pas de compétition.
Ça fait partie de l'occupation du territoire, d'avoir Internet puis des gens sur le territoire, mais ces gens-là doivent pouvoir être communiqués.
Mon avis personnel là-dessus, c'est que c'est rendu un service essentiel. Comme l'eau potable, comme l'électricité, c'est rendu un nouveau service essentiel qu'on vit depuis 1995. Depuis 1995 que l'Internet a été ouvert à la population en général. Donc avant, c'était dans le système des universités, dans l'armée. Et là, mais depuis 1995, on est capable d'avoir Internet à la maison en tant que citoyen. 1995, ça fait déjà 25 ans. Ça fait déjà 25 ans. C'est une des technologies qui est devenue essentielle la plus rapidement dans l'histoire. C'est compréhensible que le gouvernement ne soit pas prêt à l'étatiser. Ouais, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on doit étatiser?
C'est que dans le discours, ça, c'est une grande priorité là, pour les citoyens. Je vais te dire que c'est une grande priorité pour les citoyens, ça ne bouge pas vite.
Bien, présentement, au niveau politique, c'est quoi nos projets rassembleurs à part la pandémie?
Non, mais là, je parle même d'avant la pandémie. Là.
Mais c'est ça que je veux dire.
Il y a eu des promesses électorales, là, je nommerai pas les gouvernements qui disaient « D'ici 4 ans, là, tout le Québec va être branché haute vitesse! »
Avant la pandémie, est-ce que t'as, toi, reconnu un leader positif qui a tout rapatrié les gens vers un projet?
Commun?
Commun.
Dans l'histoire, il y en a eu plein.
Non, pas dans l'histoire, dans les dernières années, depuis 1995.
Il faudrait que je réfléchisse, une brûle pour point, là.
Et c'est parce que c'est quand même un projet d'envergure qui va demander beaucoup de sacrifices, qui va demander beaucoup d'investissements, qui, tu sais, on parle pareil, c'est l'équivalent d'instaurer Hydro-Québec, hein. Puis on sait qu'Hydro-Québec ne fait pas l'unanimité.
Ouais, mais tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'on peut travailler avec le privé là-dessus, qui ont déjà les technologies, etc., mais peut-être aider pour développer les lignes, surtout pour aller rejoindre toute la territorialité là, où il y a des gens qui font de l'occupation du territoire. Ça, pour moi, ça devrait être une priorité.
Mais
et
avant,
puis, je pense pas que ça coûterait plus cher que tout ce qu'on peut investir en subvention auprès de la grande entreprise privée pour des projets qui sont zéro rentables et qui sont finalement vendus à des intérêts étrangers. Pense à la cimenterie de Port-Daniel où on investit 400 millions de dollars. Je veux dire, puis que là, il n'y a plus rien qui là, c'est rendu que ça appartient à des Brésiliens. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, on pourrait aussi investir notre argent plus intelligemment. Puis parce que Internet haute vitesse, c'est tout le monde qui gagne.
Tu sais, à l'époque, la cimenterie Port-Daniel, le gros de la décision, c'est surtout l'employabilité, les nombres d'emplois à Port-Daniel.
On a financé des emplois à 60 000
Je suis d'accord avec toi. Attends un peu.
En faire une affaire hyper polluante qui a été vendue aux intérêts étrangers. Non,
imagine si cet argent-là, on l'avait fait en système Internet à Port-Daniel. Ça aurait été pas mal moins polluant.
Ben oui.
Ça aurait duré plus longtemps, puis ils auraient sûrement augmenté leur population. Puis en plus, avec la pandémie, dans le réseau Place aux jeunes, là, la migration des jeunes professionnels, pas à cause de l'emploi, ils se disent, ben moi, tant qu'à faire du télétravail, je vais faire du télétravail en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Axe-à-Côte-Nord, des places où je vais avoir de la place. Imagine! On peut pas prévoir la pandémie, mais on a l'hydroélectricité. On a un grand territoire à habiter. On a de l'espace. On a plusieurs avantages. Mais le fait de prendre cette décision-là, c'est risqué parce que c'est beaucoup d'argent. Selon nous, selon moi, selon toi, selon beaucoup de professionnels, selon plusieurs personnes, investir dans l'Internet, c'est investir indirectement dans le développement durable.
Absolument.
Mais ça prend du courage politique pour décider de mettre en application ce plan-là. Parce que si on regarde ça, par exemple, puis on y va avec le privé, c'est correct. Le privé, il y a de l'employabilité, il y a du recherche et développement, puis ils ont les technologies. Parfait. Mais ils sont aussi guidés par le profit. Si ce n'est pas profitable d'installer de l'Internet dans un certain territoire, tu pourras leur donner toutes les subventions nécessaires. Ça va revenir quand même à être très cher pour la population qui va recevoir parce qu'une fois que la subvention va être finie, il faut bien combler la différence d'argent.
Oui, mais moi, mon point, c'est de dire on en a de l'argent. On en investit déjà dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, dans les projets. Mais ça, c'est un projet qui serait profitable pour tous contre des projets qu'on a vus avec le temps qui sont vraiment pas profitables. Puis on continue d'investir là-dedans, dans ces compagnies-là là, où le profit est donc bien privé. Mais quand il y a des déficits, ça devient public. Puis il faut donc bien aider.
Mais là, on se retrouve dans la même situation parce que présentement, l'Internet, c'est du privé aussi. Même si là, le citoyen lambda va pouvoir profiter du service, ça reste quand même du privé. Puis les installations d'Internet, là, on est rendu à la 5G en 25 ans. Puis il y a une loi en informatique qui fait que les choses doublent. Donc ça veut dire que les installations, là, dans 10 ans, ils vont être désuètes.
Ouais.
Donc, les coûts d'entretien, les coûts d'amélioration du système, si on commence avec le privé, c'est qu'on tombe dans la roue qui tourne de toujours faire affaire avec le privé.
Ben oui, mais en même temps, on fait ça pour les routes. On investit beaucoup d'argent pour la rénovation des routes, puis on les refait, écoute, quasiment aux 3 ans tellement on les refait.
Mais les routes n'appartiennent pas.
Non, mais c'est un. Non, je sais, mais c'est un.
L'entretien est confié à des
privés. Oui, mais je veux dire que c'est des collectif, c'est pour la collectivité qu'on investit cet argent-là. Mm-hmm. Et moi, je pense que quand on pense en gouvernement, il faut arrêter de financer là, des gros projets industriels qui sont polluants puis qui ne servent pas à grand-chose dans la vie. Puis on devrait investir davantage dans la collectivité.
Et c'est pour ça que je te dis qu'une étatisation ou plutôt une centralisation des systèmes Internet va faire la différence parce que rien n'empêche les gestionnaires de ce système Internet-là d'engager du privé pour l'entretien, pour le choix, mm-hmm. pour donc. Puis en plus, on va stabiliser des emplois dans le domaine de l'informatique de cette façon-là. Parce que les structures vont appartenir pas à des privés, mais à nos politiques, à nos gouvernements, à aux citoyens plus directement. Si on décide d'augmenter la qualité, c'est parce qu'on décide d'augmenter la qualité, pas parce que c'est pas assez rentable pour un privé. Parce que c'est la même chose pour nos routes. T'sais, donc, c'est présentement, dans le fonctionnement, c'est que les installations appartiennent à des entreprises privées. Donc, quand tu compares la route avec les systèmes Internet, c'est pas la même chose. La route appartient au ministère.
Oui, mais c'est pas à ce niveau-là que je les comparais.
Okay.
C'est au niveau collectif plutôt que personnalisé. Là. Je trouve tellement qu'on met de l'argent et qu'on a des programmes pour que toutes les minières du Québec soient capables de faire tellement de déductions d'impôts pour déclarer aucun profit quand on n'est pas capable d'avoir Internet à Notre-Dame-de-Lorette. Moi, ça me fait un peu capoter.
Bien. Oui, oui.
C'est là-dessus que je comparais les choses, mais tu as raison, là, c'est pas en tout la même chose.
On pourrait en parler longtemps parce que c'est quand même un défi incroyable.
Mais on va arrêter d'en parler là parce que ça fait déjà 10 minutes qu'on en parle quand même. On pensait pas qu'on allait se rendre là, surtout qu'on on a comme dévié, là, mais je pense qu'Internet, on pourrait faire une émission spéciale Internet. Je veux, avant d'aller à la pause, je veux absolument parler... déclaration de revenu unique.
Oui.
Parce que, on sait que ça nous touche particulièrement ici. Il y a eu une proposition du Bloc québécois qui est une déclaration de revenu unique qui, historiquement, est appuyée par et les conservateurs qui sont en faveur de ça et les néo-démocrates qui sont en faveur de ça. Le point, il y a eu un vote. Les conservateurs n'ont pas voté en faveur en disant on n'avait pas de garantie qu'on allait protéger les emplois. Pour moi, ça, c'est de la petite politique, là, pour vrai, là, dans le projet qui était très clair au niveau que si ça se faisait, il devait y avoir des négociations pour justement conserver les emplois. Ça, c'était très clair dans la proposition. Et autre chose, c'est que là, dans la proposition du Bloc québécois...
C'était le Québec.
C'est le Québec qui gérait... Les conservateurs sont d'accord avec le principe si c'était le fédéral qui gérait l'argent. Et ça, moi, je pense que c'est là. Mais là, on fait de la petite politique en faisant « Ouais, mais là, c'est parce qu'on n'était pas certain. »
Non, ils n'ont comme pas voulu assumer le fait que le Québec voulait s'approprier un pouvoir qui n'a pas été offert à d'autres provinces. Parce qu'il y a d'autres provinces dans le Canada où il y a un seul rapport d'impôt.
Toutes les autres provinces. On est la seule où il y en a.
On est la seule. Donc, ce qui veut dire... que là, c'est donner un statut particulier au Québec en leur disant « C'est beau, gérer votre argent, puis envoyez-nous ce qu'on a besoin. » Le Parti conservateur, dans sa mentalité, dans ses valeurs, il n'est pas content. Il est pas... Mais puis le Parti conservateur voulait proposer ça au niveau fédéral. Hey, y a-tu un entre-deux? Puis dans la présentation du projet, il a été très clair qu'il y avait une discussion. C'était pas tant de le commencer que d'amorcer une discussion, d'amorcer un projet... c'est pas ça arrive, c'est on amorce le projet, on présente avec le ministre des Finances du Canada et le ministre Revenu Québec.
Mais il y a une autre affaire de bizarre aussi. Nous, les Québécois, on aime ça. Nous, on veut être différents. C'est correct. Mais quand il y a des mouvances comme, tu sais, qu'il y a eu les référendums ou on voulait l'indépendance, là, on n'est pas là. Là, on choque, on n'est pas là. Mais quand il y a des affaires, là, nous, on voudrait gérer les choses différemment. Tu sais, on veut être particulier, mais on veut rester en Canada. On est vraiment étrange, tu sais. Yvon Deschamps qui disait, on veut un Québec fort dans un Canada... Non, c'est pas un Québec indépendant dans un Canada,
Canada fort,
là.
C'est ça.
Mais tu sais, des fois, j'ai de la misère à comprendre la logique qu'on a en arrière.
On veut le bon côté de chaque chose.
Ben oui, on veut tout. On veut tout, pour on est prêt à laisser rien.
Hein? Oui, oui, on veut tout. On veut avoir le contrôle, mais sans avoir les risques. Oui,
c'est ça.
C'est pas mal ça. C'est ça. Et je trouve que ça serait tellement une bonne idée parce que il n'y a plus beaucoup de monde qui font leurs impôts de manière papier. Il y en a de moins en moins parce que ça va super rapidement, ça coûte le même, tu sais, ça coûte pas cher. Ouais. Est-ce que vous remplissez trois fois le même document? Non, tu le remplis une fois. Le système Internet, le système numérique, informatique fait que tu rentres tes données juste une fois. C'est comme si tu faisais seulement un rapport d'impôt. Donc, mais... ça remet l'argent dans des entreprises privées qui ont créé un programme au lieu de faire comme... Ça coûterait tellement moins cher pour les contribuables tout en gardant des emplois d'avoir un formulaire que tu remplis sur le site du Revenu Québec.
Non, mais pendant ce temps-là, on a des gouvernements qui nous ont promis pendant des années de décentraliser la fonction publique dans les régions. Mais, hey, On le voit jamais, ça, hein? Mais par exemple, là, pour ça, là, on va protéger les emplois que le fédéral envoie dans les régions. Tu sais, des fois, là, la logique gouvernementale, okay. Moi, je ça n'est rien comprendre. Bon, il y a plein d'autres aléas, puis il y a plein d'autres facteurs, puis il y a plein de jeux de coulisses. Mais des fois, pour moi, ça reste de la petite politique.
Parlez-en à votre député.
Ouais. Hey, là-dessus, on va aller à la pause parce qu'on est dû pour une pause. Nous
ouais.
On va à la pause, allez vous faire un café, puis on vient dans quelques instants pour la suite de l'actualité de la semaine. À tout de suite.
Ça vient de qui, tous ces messages-là? Hein? Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose?
Mais voyons, de quoi tu parles?
Hey! Prends-moi pas pour un épais.
Je le sais que tu parles dans mon dos à tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention.
Chérie. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Là. Tu vas me le dire, c'est à qui tu parles, OK?
Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là.
Je te laisse pas sortir d'ici sans savoir où tu vas.
Hein?
Bien de même, en plus.
Ben oui, non, je...
Hey, arrête de tout le temps me mentir en pleine face. Tu sais que je peux pas te faire
confiance. T'essayes toujours de me provoquer.
Mon amour, je...
Hey! Ben là, tu vas enlever ton manteau pis tu vas rester ici. C'est pas vrai qu'on va se chicaner à cause de toi. Moi, je suis là, je suis frère avec toi.
Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là.
Écoute-moi, mec, c'est fini, ça.
La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez votre rendez-vous en ligne en vous rendant sur québec.ca/vaccin-COVID. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de bien vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Doudoulbeau-Missassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifiée Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88-276-6677. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié famille MC.
Retour, j'espère que ça va toujours bien, que vous êtes prêts pour la suite des choses. Vous en allez sur un gros dossier dont on va parler probablement pas mal. Là, on n'a pas encore tous les détails, là, mais il y a une équipe d'enquête qui a fait une enquête en fait sur l'industrie forestière et les mesures ou le fonctionnement de l'industrie forestière en ce moment. On sent qu'il y a, des problématiques et ça nous ferait perdre des millions de dollars au Québec, entre autres au niveau du mesurage du bois. Là. Puis la manière que ça fonctionne, c'est quand le bois est arrivé, c'est la compagnie qui paie un mesureur et c'est à la grandeur du bois. Puis ça a l'air qu'on est tout le temps en train d'escamoter un peu un 20 à 25 de type grandeur de bois, etc. Puis toujours à la faveur et qu'il n'y a pas de supervision. Le vérificateur général en a déjà parlé. Et là, il y a des gens, des lanceurs d'alerte au niveau du ministère des Forêts qui commencent à sortir. Il y a une super enquête qui a été faite par, par l'émission Enquête, en fait. Et puis, on va avoir plus de détails, mais je pense que ça va brasser dans les prochaines semaines au niveau de l'industrie forestière. une industrie qui est très importante pour nous ici, mais il faut être honnête, là, les compagnies de l'industrie forestière n'ont pas toujours eu des pratiques extraordinaires. Là. Moi, c'est des gens que j'ai pourfendus souvent.
Mais il faut faire attention parce que dans le reportage, ils démontrent pourquoi ils le font, parce que les mesureurs. Je vais t'expliquer un peu ce que moi j'ai compris du reportage. Ouais. Présentement, les mesureurs de bois qui doivent donner un rapport auprès du gouvernement du Québec parce qu'il y a des redevances sur chaque mètre cube de bois qui est remis dans les entreprises. Bien, les mesureurs de bois sont engagés par les entreprises afin de mesurer ce qu'il y a dans les camions. Le bois au Québec peut être de 50 sous le mètre cube à 50 $ le mètre cube. Ça dépend de la qualité, ça dépend du tronc, ça dépend de comment il a été fait, ça dépend de beaucoup de choses. Mais le mesureur, étant donné qu'il est payé par une entreprise, l'entreprise fait de la pression, alors qu'ils ont une responsabilité légale auprès du gouvernement. Donc, c'est là qu'ils disent « Ah, oh, finalement, c'est pas la qualité, c'est finalement… » Et là, ils diminuent la valeur du bois qui a été pris ou diminuent la quantité de bois qui a été pris. Ce qui veut dire que les chiffres qu'on a au gouvernement du Québec sur la quantité de bois qu'on recueille à chaque année est beaucoup plus petite que ce qu'on recueille déjà en premier.
Puis on fait pas de supervision.
Mais pourquoi? Tu sais, il n'y a pas de supervision de la part des mesureurs. Alors que c'est très important.
C'est gouvernemental, là, on devrait le faire.
Bien, c'est gouvernemental, mais présentement, c'est pas le gouvernement qui paye.
Non.
C'est les entreprises.
Non, mais les vérificateurs, là. Tu sais, dans tous les maudits programmes qu'on met, là, on met tout le temps des gens pour valider, pour vérifier, mais ils sont genre deux pour la grandeur du Québec.
Puis le ministère de la Forêt, on se le cachera pas, il est du côté des entreprises d'exploitation. Et c'est là que les entreprises forestières, nos forestiers, ceux qui sont dans le bois, qui vont de plus en plus loin, bien, eux autres, ils sont payés à la valeur du bois qui sortent.
Ouais.
Donc, eux autres, là, les mesureurs qui dévaluent leur travail, là, ils sont obligés d'aller plus loin, leur machinerie leur coûterait plus cher. Donc, imagine nos entreprises forestières, à quel point ils pourraient être beaucoup plus rentables, ils pourraient beaucoup plus avoir des équipements, ils pourraient beaucoup plus faire de sélection, puis, tu sais, leur travail aurait la vraie valeur. Donc, tu sais, ils sont pris entre les deux. C'est eux autres qui se font manger à laine sur le dos pour le travail qu'ils font en forêt parce que les mesureurs dévaluent.
C'est moi puis toi aussi là, qui ont les redevances là, que l'industrie est obligée de payer et qui ne paye pas là-dessus. Là. C'est des millions pour le système de santé, d'éducation, et etc., etc. Et l'Internet aussi.
Si, par exemple, on dit 1 million de mètres cubes de bois est sorti cette année, 1 million à 50 cents puis 1 million à 50 $
C'est pas la même valeur.
C'est pas la même valeur du tout.
Mm-hmm.
C'est pas la même valeur du tout. Donc, combien de moyens le gouvernement du Québec a perdu en dévaluation de la part des mesureurs? Puis, c'est pas parce que c'est des personnes qui veulent... Des erreurs, ça arrive. Des erreurs de mesurage, ça arrive à tout le monde. Mais là, c'est pas des erreurs, c'est des pratiques de dévalorisation de la quantité de bois ou de la qualité du bois. Parce que, tu sais, il y a le bois de chauffage, il y a le bois pour les papeteries, il y a les bois de travail, il y a les bois d'œuvre, donc il y a les bois d'artisans, parce que c'est les grosses, tu sais, les plus chères à 50 $ c'est les belles grosses tranches d'arbres solides.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, il y a tellement de types de bois que, tu sais, les mesureurs, c'est une profession. C'est une profession, il y a une expertise. Mais... Présentement, le fait que ce soit les entreprises qui les payent, ça fait un conflit d'intérêts majeur.
Ben oui.
C'est un conflit d'intérêts.
Puis en plus, c'est que, tu sais, quand tu te sens pas surveillé, quand t'es un enfant, tu sais que tes parents te surveillent pas, là, mais c'est là que tu fais des mauvais coups, tu sais.
Mais les
entreprises sentent que le gouvernement, là, lui met des règles, mais qu'ils les font pas appliquer, là...
T'sais. C'est beaucoup plus les entreprises parce que les mesureurs de bois sont pas là, tu sais, ils gagnent pas plus d'argent... S'ils diminuent la valeur du bois, donc c'est pas ça, c'est pas les mesureurs, c'est vraiment plus la structure qui fait qu'eux autres, ils peuvent perdre leur job s'ils ne mettent pas à l'avantage à leur entreprise.
Oui, mais quand tu écoutes bien le documentaire, là, ça va plus loin que ça.
Oui.
Là, les entreprises forestières mettent de la pression sur le gouvernement. Des fois, il y a des recommandations qui sont étouffées par les fonctionnaires justement pour ne pas nuire à l'industrie forestière. Mais à un moment donné, ils doivent avoir leur juste part. Déjà qu'on les a tout donné à l'industrie forestière, là. T'sais? Puis encore là, quand ils font des déficits, oh, ils pleurent, on n'a plus d'argent, mais en même temps, quand ils ont fait des profits monstres, là, hein, est-ce qu'ils ont réinvesti dans les infrastructures? Hey, pas tant que ça. Là. Rappelez-vous ce qui se passait dans les années 80. Là, hein? Les actionnaires mettaient de l'argent dans leurs poches, puis après ça, on pleurait pour que le gouvernement investisse pour mettre les usines
encore
à niveau.
Moins,
là.
Encore moins loin que ça. Le nombre d'usines qui ont fermé pendant la pandémie en disant qu'il n'y a pas assez de jobs, mais que le bois rentrait, puis les cours de nos entreprises forestières s'accumulent. Le prix du des matériaux de bois au Canada, on a passé du 4 par 8 de 16$ à 99$ pour un 4 par 8! Un 4 par 8! C'est quand même 7 fois le prix.
Non.
En moins d'un an.
Ah ouais.
7 fois le prix en moins d'un an. Dites-vous que là-dedans, là, du 4 par 8, là, c'est pas le bois à 50$. C'est pas le bois à 50$, là. Ça joue sur tellement d'aspects notre industrie forestière parce que c'est quand même une ressource première. C'est une ressource première qu'on n'a pas à l'infini, mais qu'on a la chance d'avoir une belle qualité. Et le fait qu'on a un grand territoire fait qu'on a quand même beaucoup de sortes, on a beaucoup de qualité, puis on en a beaucoup. Mais il faut habiter ce territoire-là pour que ça coûte moins cher aux forestiers, parce que plus ils vont loin, plus ça coûte cher, plus ça vaut cher. Donc, tu sais, Notre-Dame-de-Lorette n'existe pas pour rien. C'est parce qu'il y a de l'exploitation forestière autour. Et Dolbeau-Mistassini, ça a été ça aussi. Dans l'histoire du Québec, l'entreprise forestière, c'était la deuxième après l'entreprise des fourrures. Une fois qu'il n'y avait plus rien pour les fourrures, ils ont commencé les forêts. C'est quand même ça. Donc, c'est quand même un pilier de notre fonctionnement économique. Mais que le pilier ne soit plus une colonne de profit. Je prends la ressource, les professionnels qui prennent la ressource dans la forêt, mais le profit de la transformation arrive à l'entreprise. Là, moi, j'ai un problème. Tu sais, on parle d'acheter du café équitable. C'est quand qu'on va acheter du bois équitable?
Hein? Quelle bonne idée.
C'est quand qu'on va acheter... Tu sais, le fait que les mesureurs soient au niveau des entreprises, c'est qu'il n'y a aucune vérification, il n'y a pas de deuxième vérification. Il peut en avoir une fois de temps en temps, mais il manque de vérificateurs. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas le pouvoir. Au niveau politique, là, il y a des décisions qui sont prises, comme tu as décrit tout à l'heure. Puis l'idée que l'équipe d'enquête a donnée, puis que les professionnels dans l'équipe d'enquête ont donnée, je la trouve très pertinente, qui est de rendre ça provincial.
J'ai vraiment hâte que nos gouvernements arrêtent d'être à genoux devant la grande entreprise est transnationale.
Mais combien, par exemple, combien de mètres cubes il peut avoir dans un planétaire qui traverse Dolbeau pour se rendre à l'œil? Tu sais, moi, je serais curieuse, là. Si j'y vais à l'œil, on a 3 mètres par minimum 3 mètres de haut par peut-être 20 mètres de profond.
Là, tu me perds parce que ça fait longtemps que j'ai pas ma calculatrice scientifique pour calculer le cosinus de
ça. Ça donne 180 mètres cubes, un planétaire. 180 mètres cubes, un planétaire. Parfait. 180 par 50 cents. Ça donne 90$ pour un planétaire. Pour le gros camion qui part de la baie James. C'est sûr que c'est pas 50$, mais faisons le chiffre au cas où. 50$, 180. Ça donne quand même 9 500 $. Pensez-vous vraiment, et là j'exagère, c'est pas à ce point-là, ouais, mais pensez-vous vraiment que le gars du planétaire va faire l'aller-retour à Dolbeau pour 90$? Non. Ils vont plus le faire pour 9 500, puis les entreprises vont payer pour quelque chose qui vaut 9 500, mais ils vont pas payer la valeur de 9 500 de ce qu'il y a dedans.
Profite de ton crinquage pour changer de sujet, parce qu'on aura plus de détails. On va voir comment ça va évoluer, mais moi, je pense que ça va brasser dans les prochaines semaines. Et avec raison, là, c'est peut-être le temps qu'on s'ouvre les yeux, surtout dans des secteurs comme ici, qu'on est très dépendant de l'industrie forestière. Là. Peut-être qu'on pourrait faire les choses différemment et surtout de meilleure manière pour les gens qui travaillent dans le coin ici. On va parler d'un sujet, puis là, tu étais déjà crinqué, puis là, je pense que tu vas exploser. Je veux qu'on parle... pandémie et féminicide. Donc, on a eu 5 féminicides en un mois au Québec. On arrive, là, la semaine prochaine, c'est la Journée mondiale de la femme. Quand ça va arriver, hein, des hommes violents, anciens conjoints, on a vu encore, là, c'était quoi, à coup de hache, il a tué son ex puis sa mère. Puis
la belle-mère, l'ancienne belle-mère.
C'est comme, Mon Dieu, à coup de hache, on en est où, là? Est-ce que c'est l'effet de la pandémie qui exacerbe toutes ces tensions-là? Quand est-ce que les hommes vont comprendre là, que la violence, ça règle rien, là? Je sais pas. C'est-tu je sais pas. J'ai bien de la misère à expliquer tout ça.
On a une chance au niveau régional et au niveau local d'avoir un organisme qui est dédié à l'aide aux hommes violents.
Mm-hmm.
De l'aide aux hommes avec qui ont vécu de la masculinité toxique. On a de la chance. On a de la chance de l'avoir. Ça veut pas dire qu'il est utilisé.
Non, ça veut pas dire que... Non, parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni puis qui pensent qu'ils sont dans
Ah oui, puis il y en a qui pensent que des femmes...
Mais la misogynie systémique, c'est encore très présent.
J'ai déjà entendu un homme dire, bon, si elle voulait pas se faire agresser, elle avait juste à être avec moi, je l'aurais protégée. Elle n'est pas supposée avoir besoin de protection.
Non.
Pas supposé avoir besoin de protection envers un autre homme. Les féminicides, c'est qu'on a tué la personne à cause de son sexe. Il y a plusieurs types de féminicides. Là, on parle de violence conjugale. Déjà, la violence conjugale peut avoir différents sexes. Ça, c'est un homme peut... dans les couples homosexuels, la femme peut être violente envers son conjoint.
Oui, mais là, présentement... Il y a plusieurs types d'agressions.
Il y a plusieurs types d'agressions. Donc, violence conjugale, en général, on est d'accord, ça n'a juste pas d'allure. Quittez-vous. C'est... Laissez tomber. Faites un travail sur vous, séparez-vous. Faites un travail sur vous, chacun
mais
de votre
part. C'est ça qui arrive, mais c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un qui quitte l'autre. Hein? Et puis, je pense que ça laisse des traces.
Et des fois, c'est qu'ils ne quittent pas parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils ont peur. Puis finalement,
Le drame arrive.
Donc, puis c'est le moment de la séparation est le moment le plus dangereux pour le conjoint qui quitte. Parce que c'est là que l'agresseur, le conjoint violent, a le plus haut taux d'émotion. Et étant donné que son comportement violent est dû à un manque de gestion de ses émotions, ben le fait de quitter, ça exacerbe. C'est comme enlever un plâtre, ça fait mal. Puis là, il faut que tu te surveilles. Puis l'année passée, il y avait un homme qui était séparé depuis 6 mois, puis il est allé tuer. Donc, tu sais, c'est pas une semaine, 2 semaines. C'est à long terme. Quand tu as eu un conjoint violent, tu as peur toute ta vie de le recroiser.
Ouais.
Tu as peur toute ta vie de le recroiser. Là, présentement, avec la pandémie, qu'est-ce qui se passe? On y va surtout avec les réseaux sociaux. On échange principalement dans les médias sociaux. Donc, dans les médias sociaux, nos algorithmes font qu'on est plus en contact avec des opinions qui nous ressemblent. Donc, il y a moins de confrontation à notre propre comportement. Première chose.
Absolument. On vient de se faire réconforter dans ce qu'on pense. Déjà.
Oui, on va se faire réconforter dans ce qu'on pense. On va plus facilement trouver des choses qui vont nous plaire, qui vont nous dire oui, vous avez raison ou autre. Deuxièmement, on n'est pas assez de contact avec notre famille pour évacuer la pression, pour évacuer.
Mais ça peut être pas rien que la famille, les amis.
Ça peut être les amis. Ouais. Mais c'est pas un échange Zoom, là.
Non.
Être en personne, de voir le sentiment, de ne pas être capable de fuir aussi l'intervention, la relation avec l'individu. Ça se peut des chums de gars qui disent « Hey, décroche, là. Elle est partie, vis ta frustration d'une autre façon. » Mais là, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de contre, il n'y a pas de retour. La personne accumule, elle bouillonne, puis pour elle, la seule façon de le faire, de se libérer de ça, bien, c'est de passer à l'acte. Donc ça, on a ça. La pandémie aussi fait que les personnes qui vivent la violence conjugale, c'est encore plus difficile d'aller chercher de l'aide parce que tu n'as pas la pause d'aller au travail. Mm-hmm. Ou tu peux rencontrer d'autres personnes ou faire une autre planification.
Tu peux ventiler. Appeler à demander de l'aide.
C'est ça. Tu n'as pas de moment de break où tu es tout seul. Ou tu es capable, toi tu es tout seul, soit tu es avec tes amis. Parce que déjà dans la violence conjugale, ça commence aussi par le contrôle social. Donc le fait d'aller au travail, qui n'est pas dans le contrôle social, tu es à ton travail, tu as un milieu, un safe space, un milieu. Donc on se retrouve vraiment dans une situation où les personnes sont piégées dans la violence conjugale. Puis il peut y avoir des appels des policiers, et les policiers viennent intervenir. Mais il y a tellement une peur de la victime que la victime va dire « Non, c'est correct. » Mais les policiers n'ont pas le droit d'intervenir s'ils pensent que...
Il faut
que la personne reconnaisse qu'il y a un problème. Puis si elle reconnaît devant la police, bien là, elle enclenche le processus de séparation, puis les conséquences vont être pires. Une mère et sa fille. Sa mère voulait protéger sa fille parce qu'elle avait peur que son ex-conjoint devienne violent et finit par mourir les deux ensemble parce que la fille voulait se faire respecter par son conjoint. Parce qu'une jeune femme de 19 ans a eu le courage et la force de se séparer d'une relation violente. On est rendu où? On est rendu où dans notre communauté? On est rendu où dans notre histoire? Parce qu'on est tous indignés. Parfait. Mais si vous voyez, si vous vous doutez, qu'est-ce que vous faites?
Mais c'est difficile de se douter dans un contexte pandémique où chacun est chez eux et on n'a plus de rapport. Je ne sais pas. Est-ce que je me trompe?
On a toujours un doute parce que la violence d'un couple, elle peut se vivre, par exemple, dans une rencontre, puis « Ah, ta gueule! » Il y a toujours une pointe de l'iceberg. Puis on se dit « Ah, ben on va le laisser, c'est juste eux autres. Ah, c'est leur couple. Ah, je veux pas m'en mêler. Ah! »
Mais c'est comprenable.
C'est comprenable,
je,
oui!
Je veux pas me sentir, moi, qu'on me reproche ça. Là.
Non,
je veux qu'on se mêle de mes affaires. J'ai pas le goût de me mêler des affaires.
Non, mais...
Non, mais je dis pas que c'est correct, je dis que c'est naturel. Là,
oui, ouais, mais c'est pour ça que je me pose la question. C'est pas de trouver un coupable et dire la société est coupable. Non. Mais se poser la question de dire, moi, en tant que personne, membre de la société, qu'est-ce que je fais face à ça? Est-ce que j'encourage la masculinité toxique avec mon enfant en disant « un homme, ça pleure pas »? Est-ce que j'encourage ma fille à accepter les agressions en disant « ah, s'il te tire les cheveux, bien, c'est parce qu'il te trouve cute. »
Je n'avais pas entendu celle-là.
Ah, ben non, c'est ça. S'il t'agace, bien, c'est parce qu'il doit c'est parce qu'il s'intéresse à toi. Il y a plein de façons, là. Tu sais, quand les petits-enfants, il est tannant avec toi, c'est parce qu'il t'intéresse. Ça veut dire... à la petite fille, bon, ben si tu fais mal, si tu n'es pas à l'aise, ben c'est parce qu'il est intéressé par toi. Hey, super de beaux comportements à apprendre pour protéger la petite fille.
Mm-hmm.
Apprendre à tolérer ça, sous prétexte qu'il y a peut-être de l'intérêt. Non, tu devrais apprendre au petit gars autant qu'à la petite fille. Dans ce cas-là, tu sais, c'est pas comme ça que tu démontres ton intérêt.
Ouais, mais des fois, les enfants, en tout cas... Je veux pas embarquer dans...
C'est plus complexe que ça. Mais présentement, la violence conjugale est exacerbée par le fait qu'on est dans des bulles ou qu'on n'a pas de moyens de ventiler, que présentement, en plus, notre système de santé est débordé, autant au niveau psychologique, autant au niveau de santé physique. C'est pas une priorité. Dans le fond, oui, c'est une priorité, mais je veux dire... on n'a pas les moyens de mettre les ressources en place pour améliorer la situation. Et je suis dévastée à chaque fois que j'en apprends. Je me dis, on a de la chance, nous, dans notre région, d'avoir le Centre Optimum. On a la chance aussi que le Centre Optimum ait des appartements pour les hommes qui viennent de se séparer.
Puis en même temps, ben il y a des hommes qui n'iront jamais demander de l'aide, puis c'est ça qui est triste. Hein?
Oui, mais des centres pour les femmes, ils fonctionnent encore, puis vous ne connaîtrez jamais leur adresse par Internet. Lorsque vous appelez pour un centre d'aide à la femme, vous pouvez appeler la police pour qu'ils viennent vous chercher et ils vont aller vous porter parce qu'eux connaissent l'adresse. Mais le but, c'est que un mari, un ex-conjoint violent, c'est ultra sécurisé. Les fenêtres sont vitrées, les fenêtres sont fermées. Tout est barré, la porte est barrée. Ça vérifie par caméra. C'est ultra sécuritaire avec des intervenantes sur place. Puis les enfants peuvent venir.
Ouais. C'est moi un message que j'aimerais passer aux hommes là, en fait. C'est tu sais, des fois tu te dis oh, pourquoi c'est pas pour moi ces services là. Hey, essayez donc. Si vous essayez pas là, vous réglerez rien. Mais en essayant, parce que vous connaissez des hommes qui ont étudié ces services-là, qui s'en sont pleins ou qui font « ça marche pas ». Non, hein? Pourquoi? Peut-être parce que ça marche. Essayez-le si vous sentez que vous pouvez déborder ou éclater à un moment donné.
Le pire qui peut arriver, c'est que vous disent « bien, c'est correct, tant mieux, ça va bien, puis vous pouvez y aller ». Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vous disent « bien, vous êtes correct, c'est correct, vous êtes légitime, ça va bien ». Le mieux qui peut arriver, c'est que vous soyez accompagné par des professionnels tout en ayant le respect, puis que vous puissiez évoluer tout en vous faisant respecter en tant qu'homme, en tant que personne. Ce n'est que les deux. Vous ne serez jamais stigmatisé parce que vous avez été chercher de l'aide.
Mm-hmm.
Jamais. Et s'il y a quelqu'un qui vous stigmatise, posez-vous la question si c'est une personne bonne pour vous. Parce que quand on parle de personnes toxiques, si le fait de prendre soin de soi est une bonne raison pour dénigrer quelqu'un, pour moi, c'est le critère numéro un de dire « cette personne, je ne veux pas l'avoir dans ma vie, c'est une personne toxique ».
Clairement.
C'est la première chose. C'est surtout que c'est l'organisme qu'on a au niveau local est reconnu. Reconnu pour ça. C'est pas comme si vous demandiez à un astrologue de vous accompagner dans la gestion d'une schizophrénie. Non, vous avez un organisme qui est là pour aider les problèmes de comportement puis le fonctionnement exprès pour les hommes.
Et lundi, le 8 mars, c'est-tu lundi? Oui, lundi, oui. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, qu'est-ce que, pour terminer, là, je te donne 2-3 minutes, là, qu'est-ce que tu souhaiterais aux femmes d'ici? Là, on parle de d'ici, là, Maria Chapdelaine, mais des femmes aussi partout à travers le monde. Ce serait quoi ton souhait le plus cher là, pour la prochaine année? Là?
Mesdames, avec cette grosse année qu'on a vécue, dans les 365 derniers jours, beaucoup de choses vous sont retombées sur les épaules.
Charge mentale.
Nos principaux sauveurs, nos anges, sont majoritairement des femmes. Qui sont restées à la maison pendant que les garderies et les écoles étaient fermées, la majorité du temps? Qui a pris soin de ses amis, de la santé mentale? Bien, moi, la première chose, c'est que je veux vous remercier pour tous les efforts, puis pour toute la valeur et tout le soutien qu'on a, autant les professionnels que les mères de famille, que les amis, les filles. Vous avez démontré que vous êtes essentielles. Donc, moi, c'est la première chose, c'est souligner le travail de toutes ces femmes et de toutes les femmes, que toute personne qui s'identifie femme aussi. Donc, c'est pas tant un souhait que je vous souhaite d'être reconnue pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez sacrifié au cours de la pandémie pour que les gens autour de vous et notre société aillent mieux à long terme, que ce soit de la maison ou pour notre nation.
Ça va bien, on y arrive, mais il y a encore des gros débats, des gros enjeux. Puis la violence conjugale en est un majeur.
Peut-on se taper sur l'épaule en se disant que
bravo,
les femmes ont fait la différence dans le cadre de la pandémie?
Ben oui, les infirmières.
Les femmes à la maison, les éducatrices en garderie. La majorité des postes qui ont été considérés comme essentiels étaient occupés par des femmes. Puis malgré que ce soit essentiel, qui la majorité du temps restait à la maison pour s'occuper des enfants quand les systèmes n'étaient pas là?
Intersectionnalité.
Et c'est pour ça que je vous lève mon chapeau, mesdames. Puis on se tape sur l'épaule et le combat n'est pas terminé, mais on a prouvé qu'on valait la peine pour le combat.
Absolument. Absolument. Moi, je te lève mon chapeau qui est invisible, mais depuis le début, j'ai un chapeau invisible sur la tête. Merci infiniment. J'en ai rien d'autre de ta participation et de
Merci
ta sagesse,
beaucoup,
de ta luminosité et de tes prises de position certaines. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez passé un bon temps avec nous. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Avec Jules Simard, cette fois-ci. Passez une bonne semaine.